Albert Londres, adieu Cayenne. Au début de l'année qui va finir, tout homme qui achète un journal put lire une dépêche provenant de Cayenne. Elle annonçait que le forçat Dieudonné, ancien membre de la bande à Bonneau, avait trouvé la mort en voulant s'évader. Dieudonné, Camille Eugène Marie Dieudonné, il a 26 ans quand éclate l'affaire Bonneau. De son métier, il est ouvrier ébéniste. D'idées, anarchiste, illégaliste, ainsi que l'on disait à l'époque. Il a nourri son jeune âge de la littérature des citoyens Alexandre Birand, Urbain Goyer, Aristide Briand, Gustave Hervé. Il n'ignore pas Gustave Le Bon. Il réciterait sans défaillance les livres de l'éminent M. Félix Le Dantec, professeur à la Sorbonne. Stirner, Nietzsche sont ses maîtres. C'est assez dire qu'il ne fait pas partie de ces ouvriers de marchands de vin et du vélodrome d'hiver. Il est un intellectuel. La journée finie, il court les réunions que lui recommandent les professeurs plus haut cités. L'innocent ferait mieux d'aller sur le zinc. Là, il rencontre tous les ennemis de la société. Il en connaît même qui s'appellent Garnier, Bonneau, Calmin, dit Raymond la Science. Et justement, à cette date, Garnier, Bonneau, Calmin montent dans des automobiles. Ils ont un revolver au poing et tirent sur les employés de banque. Ils descendent des agents de police. Ils assassinent des chefs adjoints de la sûreté. Oh! Ils en font bien d'autres. Mauvaise fréquentation pour un ébéniste. Il eût fallu se saisir des garçons qui, croyant faire les apôtres, ne faisaient que des bandits. La police n'y parvenait pas. Elle se rabattait sur le voisin, non le voisin d'habitation, mais le voisin de doctrine. Ainsi fut arrêté Dieudonné. C'est là que le drame commence. La bande à Bonneau avait débuté dans le commerce du crime par l'attaque d'un nommé Cabille, garçon de recette, alors qu'il passait rue Ordener. Cabille ne mourut pas. Il désigna Garnier comme son agresseur. C'est bien lui, s'écria-t-il, je le reconnaîtrai entre 100. Mais Garnier fut tué peu après lors du siège qu'il soutint dans une maison de banlieue. La police, alors, présenta plusieurs photographies à Cabi. Cabi les examina. Oh, je m'étais trompé la première fois en accusant Garnier, dit-il. Non, non, mon assassin, le voilà. Et il posa le doigt sur le portrait d'un inspecteur, portrait glissé parmi des têtes d'anarchistes. La bande à Bonneau, la vraie, continuait l'assaut contre la société. L'opinion affolée réclamait des coupables. Dieudonné était en prison, mais pourquoi ne l'essaierait-on pas comme l'agresseur de Cabi? Une après-midi, Dieudonné, non rasé, sans col, hagard, traverse entre deux policiers les couloirs du palais de justice. On le conduit chez le juge d'instruction. Cabi est aussi dans ces couloirs. Au passage de Dieudonné, un agent de la sûreté touche le bras de Cabi. Tenez, lui dit-il, regardez, voilà votre agresseur. L'homme qui cherche son assassin reste saisi. 5 minutes après, confrontation chez le juge. Connaissez-vous cet individu, Cabille? Il le connaît, il vient de le voir. On lui a dit, c'est celui-là. Oui, fait Cabille, c'est lui. Regardez-moi, monsieur, vous vous trompez, renvoie Dieudonné. Cabi ne consent plus à se tromper. 2 fois suffisent. Il dit « Oui, c'est lui. » Taratata, répondent les gens qui savent des choses. Si Cabi a reconnu Dieudonné, ce n'est pas parce qu'on le lui montra dans le couloir, mais parce que Dieudonné était rue Ordener. Il n'est pas l'assassin. Il y était par humanité, pour empêcher les autres de tirer. C'est là du roman russe. Au fait, c'est Garnier qui attaqua Cabi. Garnier le proclama avant de mourir. Avant de mourir également, Bonneau écrivit « Dieudonné est innocent, il n'était pas rue ordinaire. » Calmin, une fois condamné à mort, s'écria « Dieudonné est innocent, il n'était pas rue ordinaire, je le sais, moi, j'y étais. » Le témoignage d'un homme au moins deux fois abusé l'emporta sur la vérité. Dieudonné fut condamné à la guillotine. À cette époque, le président de la République se nommait Raymond Poincaré. Monsieur Poincaré est connu comme un homme faisant consciencieusement son métier. On dira de lui difficilement que son habitude est d'agir au petit bonheur. Il étudia le cas Dieudonné. Son avis fut différent de celui du jugement rendu. Il gracia Dieudonné. Alors, Monsieur Poincaré ne gracia pas Dieudonné parce qu'il lui accordait des circonstances atténuantes. Il le gracia parce qu'il ne trouvait pas dans le procès la preuve de sa culpabilité. Mais que veut dire, en l'état de nos lois, ce mot de grâce? Il veut dire que l'homme ainsi gracié ira au bagne jusqu'à la fin de ses jours, et il y alla. 11 ans plus tard, j'y allais à mon tour. C'est ainsi que, me promenant un matin dans les locaux disciplinaires de Saint-Joseph, aux îles du Salut, je fus arrêté par un nom écrit sur la porte d'une des cellules. Ce nom était Dieudonné. Celui de la bande à Bonneau? On me répondit oui. Le gardien fit jouer le Judas. Une tête s'encadra dans l'ouverture. C'était celle de Camille Eugène Marie Dieudonné. Je viens voir ce qui se passe par ici, lui dis-je. Désirez-vous me parler? Oui, oui, je voudrais vous dire des choses. Oh, je ne veux pas me plaindre, mais des choses en général sur la vie cruelle du bagne. Sa voix était haletante comme s'il venait de faire une longue course. Cependant, sa cellule n'avait que 1,50 m de large sur 2 m de long. Il était enfermé depuis 8 mois. Cette tête dans ce Judas ajoutait encore au cauchemar de l'endroit. Je demandai que l'on ouvrît la porte, on le fit. Dieudonné se redressa. Il avait de grands yeux avec de la fièvre au fond, pas beaucoup de chair sur la figure, aussi ses pommettes pointaient-elles. Il se tenait au garde à vous, mais sans force physique. La vie au bagne, dit-il, c'est épouvantable. Ce sont les règlements qui nous accablent. Ils trahissent certainement dans leur application l'idée des hommes qui les ont faits. C'est comme un objet qui tombe de haut et qui arrive à terre, son poids multiplié. Aucun ne peut se relever. Nous sommes tous écrasés. Un rayon de lumière glissait dans ce tombeau. Au point où ce rayon touchait la dalle, il y avait quelques livres. Mais pourquoi êtes-vous en cellule? Bon, j'y suis régulièrement, je paye ma dernière évasion. J'aurais même dû avoir 50 cachots puisque c'était ma seconde. Bon, le tribunal maritime ne m'en a infligé que 2. Parce que vous êtes bon sujet, dit le garde. Oui, fit-il d'une voix toute simple, je dois dire que l'on me châtie sans méchanceté. Le commandant des îles nous rejoignit. « Ah, vous avez trouvé Dieudonné. Bonjour, Dieudonné. »« Bonjour, commandant. »« Tenez. » Et il posa sa main sur l'épaule du forçat. « Voilà un garçon intéressant. Alors pourquoi le mettez-vous là-dedans? C'est un ouvrier modèle. Dieudonné est un exemple. Il a su se préserver de toutes les tares du bagne. » Quand il a fini de travailler avec ses mains, il étudie dans les livres, la mécanique, la philosophie. Que lisez-vous maintenant? Dieudonné ramassa des mercures de France et les présenta. Vous voyez assez clair. Merci, commandant. Je ne devrais pas vous demander cela, votre cachot n'est pas réglementaire. Dites-moi au moins que vous n'y voyez rien, pour le repos de ma conscience. Ils sourirent. Un sourire est une fleur rare aux îles du salut. Il s'est évadé de Royal, reprit le commandant. C'est l'un des plus beaux exploits du bagne. 95 chances de laisser ses membres au requin, mais comment vous a-t-on retrouvé sur la grande terre? Épuisé, commandant. Et il a même repêché un gardien une fois, n'est-ce pas? Dieudonné esquissa un geste du bras. Voyons, dis-je au commandant, le cas Dieudonné est troublant. Beaucoup de gens croient à son innocence. Mais du fond de ma conscience, je suis innocent, fit Dieudonné. Là-dessus, l'on renferma l'enterré vivant dans son tombeau. Ces dernières années, les hommes heureux voulurent bien reporter leurs pensées vers la terre d'expiation. Le bagne nourrit un temps les conversations et les chroniques. Des avocats, des journalistes réveillèrent l'affaire Dieudonné. Des consciences furent alertées. Quelques hommes consentirent à se rappeler que Dieudonné n'avait été condamné que sur un témoignage incertain. L'enquête fut reprise, les dossiers rouverts. Puis, un matin de 1926, Maître de Borgia-Ferry et quelques autres pénétraient au ministère de la Justice. Ils allaient demander la grâce de Dieudonné. Les chefs du bagne la réclamaient avec eux. Le gouverneur de la Guyane également. La grâce fut refusée. 2 mois après cela, je recevais une lettre de Cayenne. Elle n'était pas d'un forçat, mais d'un colon. Alors la voici. Cher monsieur, vous devez savoir que malgré l'avis de tous, ici la grâce vient d'être refusé à Dieudonné. Depuis 2 ans, il ne vivait que de cet espoir. C'est bien triste de berner les pauvres gens. Moi, je le crois innocent. En tout cas, il a proprement payé. Ne pourriez-vous pas agir de nouveau? Il serait moral de récompenser ceux qui, dans ce monde affreux du bagne, ont su rester des travailleurs et des êtres propres. S'il s'évade, ce n'est pas nous de Cayenne qui lui souhaiterons malheur, etc. Pour la troisième fois, Dieudonné s'évada. C'était au mois de juillet. Des dépêches annonçaient que Dieudonné n'était pas mort, qu'on l'avait découvert dans l'état de Pará, que le Brésil l'avait mis en prison puis relâché. Un taxi me déposait à 18 rue d'Enghien, au Petit Parisien. Je venais voir Monsieur Élie Joseph Bois, grand maître des vents et marées de l'opinion publique. Et Dieudonné, me demanda-t-il, sans me laisser le temps de m'asseoir. C'est une histoire, celle-là. Vous le connaissez, il faudrait retrouver l'homme. Mais il est au Brésil. Et après? Mais c'était bien évident. Le Brésil n'était pas aussi loin que la Lune. On rédigea des câbles, on réveilla des consuls au-delà des mers, on fit ce qu'il fallait faire et je partis pour le Brésil. Là se placent 20 jours d'océan. Le 21e, à 7 heures du matin, le DIC, paquebot des chargeurs réunis, entrait sans triomphe spécial dans la baie de Rio de Janeiro. Puis il allait à quai. À cet instant de la journée, les personnes raisonnables ne se promènent pas le long des ports. Elles sont dans leur lit. On comptait cependant une quinzaine d'individus observant la manœuvre du bateau. Voyons, me dis-je, comment était-il mon homme la dernière fois que je le vis? Je me rappelais son crâne et sa face rasée. Et la scène de nos adieux vint à ma mémoire. Il avait le corps dans sa cellule, la tête dans le guichet, qui semblait vouloir le guillotiner, et de ses yeux mangés de fièvre, il me regardait partir. C'était, voilà 4 ans, au bagne. Et si les Brésiliens ne l'ont pas remis en prison, et que mes câbles l'aient touché, il doit être par ici. J'en étais là de mes pensées, quand Hippolyte, garçon du bord, me prévint qu'un monsieur me demandait. Il est à terre, au bout du bateau, près de l'hélice, ajouta-t-il. Je me portai sur l'arrière. Bonjour, me cria-t-on. Eh bien, le bonjour. C'était un homme pas très grand, coiffé d'un canotier, vêtu d'un complet bleu marine. Il avait des moustaches en brosse et des souliers tout neufs du matin même. Je crus voir en même temps qu'il n'était pas follement gras. Eh bien, le bonjour, répéta-t-il, comme je me penchais sur la rambarde. Je ne vous reconnais pas exactement, mais je comprends que c'est vous, fit-il. Ah, moi, je ne vous reconnais pas du tout. Pardi, j'ai changé de tenue. Ah, alors, c'est vous. Et d'une voix sourde, il prononça: Oui, Dieudonné. L'homme était retrouvé. Chapitre 2. Que faisiez-vous dans la bande à Bonneau? Nous étions installés tous deux sur l'une des collines du grand port, la Santa Teresa, parce que dans Rio, il faisait chaud déjà. Cet endroit s'appelait l'Hôtel Moderno. Là descendent les Français. On y voyait des officiers de la mission militaire, des professeurs de Sorbonne en tournée de conférences, des ingénieurs de Polytechnique, Madame Vera Sergine et sa troupe, Monsieur le consul de France, les aviateurs de la future ligne Paris-Buenos Aires en 7 jours. Le bagne venait d'y entrer. Nous avions beau l'évader, moi, changer le sujet de notre conversation, toujours le sujet était le plus fort. Nous en revenions à l'évasion. Alors, ce fut assez réussi, lui demandai-je. Il secoua la tête et, dans le silence de cette réponse, il y avait le prolongement sonore d'une inoubliable misère. Il vous restait que 2 ans et 9 mois. Il me coupa la parole. Et 23 jours. De bagne à faire, c'était moins que la mort que vous alliez chercher à 50% de chance dans l'évasion. Je n'en pouvais plus. Il prit son masque amer, il réfléchit et. Ma foi, non, c'était plus possible, voyez-vous. J'aurais pu vous en dire des choses, voilà 4 ans, quand je vous ai vu là-bas. Oh là 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 là! Mais dites donc, avant de raconter l'histoire. L'histoire de mon évasion, personne ne la croira. Mais avant ça, je voudrais vous demander quelque chose. Que faisiez-vous enfin dans la bande à Bonneau? Là, je dois vous présenter Dieudonné. Il n'est pas très grand. Comme il a été engraissé au bagne, il est un peu maigre. Brun. Sa tête est carrée et ses yeux, qui sont noirs, prennent par moments une fixité inébranlable. Ce sont ces yeux-là que, sous le coup de ma question, il tourna brusquement vers moi. Mais de même que pendant la guerre, on sucrait son café avec de la saccharine, il adoucit son regard d'une profonde amertume. Ah, oh, vous aussi! Vous qui connaissez mon affaire, vous me posez cette question. Il balançait la tête à coups francs, comme pour dire. Bon, ben, je l'aurais pas cru, je l'aurais pas cru. Vous me posez cette question vieille de 15 ans. L'éternelle demande qui me fait bondir. Mais imaginez-vous un Caïn qui n'aurait pas tué Abel et qui toute sa vie entendrait derrière lui. Qu'as-tu fait de ton frère? Il se défendra, il se démènera, il s'expliquera. On l'écoutera un moment d'une oreille sceptique, puis l'on s'en ira alors qu'il continuera à se défendre dans le vide tout seul. Et l'homme qui lui jette un regard de mépris, et les timides qui détournent la tête, et ceux qui, dès qu'ils vous aperçoivent, passent sur le trottoir opposé, et tous les autres qui vous croisent sans vous voir, et les meilleurs. Les meilleurs qui restent indécis. Oh, cette prudence des meilleurs, cette hésitation, cette main qui se tord mollement et comme dans l'ombre, ce regard qu'ils promènent autour d'eux, comme si ce regard avait la puissance de vous faire disparaître, cette peur qu'on les voit avec le bagnard. 15 ans que cela dure, monsieur. Ce que je faisais dans la bande à Bonneau. Oh, laissez-moi me rappeler. Il passa sa main lentement sur son front. Je n'ai connu la bande à Bonneau que par les rumeurs, alors que j'étais déjà incarcéré à la Santé. Ce que j'ai connu, moi, s'appelait Galbin, Garnier, Bonneau, mais ils n'étaient pas en bande quand je les voyais. Des centaines les connaissaient comme moi. C'était à cette époque de simples mortels qui fréquentaient les milieux anarchistes où l'on me trouvait parfois. J'étais comme tous les autres. On pouvait rien lire sur leur front. Et que faisiez-vous dans les milieux anarchistes? Pas nous reconduisions la société, pardi. Je l'ai dit et écrit il y a 15 ans. Je croyais à l'anarchie, c'était ma religion. Entre anarchistes, on s'entraidait. L'un était-il traqué, il avait droit à l'asile de notre maison, à l'argent de notre bourse. Alors vous avez caché Bonneau. Moi, je cachais Bonneau? Non, je vous demande. Mais non. Je veux dire qu'en serrant la main à Calmin, à Garnier ou à Bonneau, je ne savais pas plus que vous ce qu'ils feraient ou ce qu'ils avaient fait déjà. On n'exige ni papier ni confidence de quelqu'un qui longtemps une chaise ou un morceau de pain. Voilà mon crime, et il m'a conduit devant la guillotine. Dieudonné baissa la voix. Nous étions sur une terrasse de l'hôtel, et des gens qui sortaient de table passaient derrière nous. Alors vous vous rendez compte de ce que je ressentis quand je fus accusé de l'assassinat de la rue Ordener. Oh, je me rappelle nettement cette seconde-là. Tout ce que j'avais en moi s'effondra, mais tout. Il me sembla que seul mon enveloppe de peau restait debout. Le premier choc passé, je nourris un peu d'espoir. Je me disais, Gaby a reconnu Garnier pour son assassin. Ensuite, il en a désigné un second. Moi, je suis le troisième. Dans quelques jours, il en reconnaîtra un quatrième. Alors le juge comprendra que cet homme n'est pas solidement équilibré. Bref, les déclarations de Garnier et de Bonneau, m'innocentant, à l'heure de leur mort, celles de Calmin, après le verdict, mes protestations angoissées, mes témoins, la défense passionnée de Bologna Ferri, toute ma vie honnête, le cri de Maître Michon. Mais messieurs les jurés, sa concierge même est pour lui. Rien n'y fit. Dieudonné aura la tête tranchée sur une place publique. Oh, j'ai encore des mots dans l'oreille. Tenez, je l'avoue, je n'ai pas le courage de la guillotine. Être décapité comme une bête de boucherie, mourir par sentence pour un crime que l'on n'a pas commis, léguer à son fils le nom d'un misérable, oh, laissez-moi respirer. Et que pensez-vous de Kaby? Ben, je pense qu'un homme doit avoir une haute conscience ou une belle intelligence pour oser déclarer « me suis trompé ». Il l'a déclaré puisqu'il s'est démenti lui-même 2 fois. Justement, il faut savoir s'arrêter. Mais qu'il vive en paix, je ne veux plus penser à lui. Et Dieudonné reprend. J'ai connu des heures effrayantes dans ma cellule de condamné à mort. Bologna Ferri me réconfortait. Sans lui, je me serais suicidé. C'est pas la mort qui me faisait peur, c'est le genre de mort. Le 21 avril 1913, à 4 heures du matin, on ouvrit cette cellule. On ouvrait en même temps celle de Calmin, de Monnier, de Soudy. À moi, in extremis, on annonça la grâce. J'entendais les autres qui se hâtaient pour aller à la mort. J'avais vécu si longtemps en pensant à cette minute que sur le mur de mon cachot, j'aperçus comme sur un écran leur tête qui tombait. Les gardiens revinrent de l'exécution. Oh, quelques-uns pleuraient. Dehors, il pleuvait. J'entrevis le bagne. Une faiblesse me prit. Un inspecteur me soutint. J'étais forçat pour la vie. Voilà ce que j'ai fait dans la bande à Bonneau. J'ai été condamné à mort pour un crime commis par Garnier. C'est toujours un immense malheur d'être condamné sans motif. C'en est un plus grand de l'avoir été dans le procès dit des bandits tragiques. Depuis 15 ans, je l'expérimente. Vous pourrez l'écrire autant que vous le voudrez. Le doute demeurera toujours dans les esprits. Les 43 ans de ma vie honnête et souffrante n'effaceront pas la honte de la fausse condamnation. Les regards timides me fuiront toujours, les portes se fermeront. Demain, un autre homme que vous me demandera: Que faisiez-vous dans la bande à Bonneau? Oh, qu'il aille au diable! Un aviateur, sortant de table, vint me rejoindre sur la terrasse. Je lui présentai Dieudonné. On parla de l'histoire, bien entendu. Un moment plus tard, l'aviateur se pencha vers l'évadé. Enfin, lui demanda-t-il, que faisiez-vous dans la bande à Bonneau? Chapitre 3. La belle. Le lendemain, Dieudonné entrait dans ma chambre. Maintenant, à nous deux, lui dis-je, vous allez me conter votre évasion. Un beau matin, donc, vous décidez de fuir le bagne. Un beau matin, vous croyez ça, mais j'ai toujours voulu m'évader. Il s'assit sur mon lit et commença. Mais il faut être un individu pourri pour consentir à vivre au bagne quand on est innocent. Seulement, ce n'était pas commode. Savez-vous ce qu'est le bagne pour les têtes de Turc comme moi? Mais le pays de la perpétuelle délation. Qu'un forçat ordinaire lève le camp, cela compte dans le nombre. On n'avertit pas Paris, les chefs ne sont pas blâmés. Mais bon, les hommes de ma sorte, il en est autrement. Les administrateurs préviennent le coup. Ils lancent sur le malheureux tous les chiens galeux de la Guyane, les mouchards. Mouchard, votre voisin de case à qui vous donnez du tabac. Mouchard, le balayeur privilégié qui flâne dans l'île. Le perruquier, le garçon de famille, le planton, l'infirmier, Mouchard. Il faut bien qu'ils gardent leur emploi. Mouchard, le plus misérable, attaché aux corvées dégoûtantes. Ceux-là espèrent, par leur bassesse, mériter une meilleure place. Mouchard honteux, mouchard cynique. Mouchard double, dénonçant le forçat au gardien et le gardien au forçat. Mouchard patenté, reconnu, galonné. Les porte-clés. Vous n'avez pas idée, vous, les hommes libres, de ce qui se passe dans le trou du bagne. L'homme est lâche devant la faim. Pour un supplément de pain, un fruit, une place de blanchisseur, mais vend son camarade. N'a-t-il rien à dire? Il invente. Comme il s'attaque de préférence aux hommes dont le procès fait retentissant, l'administration le croit, par peur des blâmes ministériels. Et malgré tout, je ne cessais de penser à la belle. Quelle belle! Mais la liberté, pardi! C'est ainsi qu'on la nomme là-bas. Vous supposiez autre chose, une femme? Mais non, il n'est qu'une belle pour nous. À part les vieux, et pas tous encore, et quelques centaines de dégoûtants qui trouvent leur vie dans cette grande auge. Tout le monde l'invoque. Le cœur de 7 000 hommes bat pour elle. On lui fait des poésies. Des amants t'appellent la belle, tout net, tout court. Le boiteux, l'aveugle, le sourd, en pensant à toi, mon amour, ont des ailes. C'est même rigolo de voir ça. 7 000 hommes vivant ensemble, n'ayant qu'une idée fixe en tête, une seule. Ah, vous ne saviez pas ce que c'était la belle? Mais tout avait changé de face, cependant, pour vous, les derniers temps. Vous pouviez compter sur votre grâce. Évidemment, j'allais mieux. Je n'étais plus en cellule à cause de la belle, comme le jour où je fis votre connaissance. Le gouverneur Chanel m'avait ramené sur la grande terre à Cayenne. Si ce gouverneur était resté en Guyane, je ne me serais pas évadé. Je m'avais donné ma parole. Il est parti. Courage, Dieudonné! À bientôt à Paris! Me cria-t-il du bateau qui l'emmenait. Il pensait obtenir ma grâce. Le temps passa. Le gouverneur ne revint pas. Un jour, c'était en décembre, Je travaillais à la maison Kiris sur le quai, vous savez, après les baraquements de la douane. Je surveillais un bon ami, un Corse, un assez bon garçon, va me chercher. Faut que je vous conduise à la délégation, on a quelque chose à vous apprendre. C'est même beau, je crois. Je suivis le chef. Nous arrivâmes. Vous avez 5 ans de grâce, me dit le commandant Jean-Romain. Vous êtes libérable le 30 juillet 1929. Signé. Mon cœur se refroidit. Oh, je comptais sur la grâce totale. Elle m'avait été promise. J'avais acheté des malles. Elles étaient remplies de souvenirs. Coffrets, tapis d'aloès, cannes en bois d'Amourette, écailles travaillées par Belon de Marseille. Encore un innocent. Oui, il vient d'être gracié. Cela n'empêche qu'il était innocent et qu'il fallut 8 années de réflexion. J'avais aussi des statuettes sculptées par Je sais tout de Lyon, des babouches en balata faites par Bibi la Grillade, des fleurs en plumes d'oiseaux montées par des orphelines de Cayenne. Des cadeaux, quoi, pour mes bienfaiteurs. Rentrer dans ma soupente et comme si c'est mal. Subitement me rappelait tout, m'effondrait. Et je me souviens que je fis sur le plancher la soustraction du temps que je devais encore rester au bagne. Elle donna 2 ans, 9 mois et 22 jours. Oh, mon calcul est toujours sur les lattes, sans doute. 15 ans de bagne pour un crime que je n'avais pas commis. Après cela, encore 2 ans, 9 mois. Et 22 jours, oh, c'était trop. Bon, je me relevais, je dis, vive la belle. Mon évasion était décidée. Mais l'évasion, c'est le risque. Là-bas, les derniers temps, vous étiez privilégié. Privilégié parmi les forfaits, beau privilège. Évidemment, j'étais pas mal depuis 15 mois. J'avais un laissez-passer, je couchais en ville. La police me rencontrant après l'heure fixée faisait semblant de ne pas me voir. Je gagnais mon pain parce que j'étais de ces exceptions qui peuvent travailler en Guyane, mécanicien, ébéniste. C'est bon, vous le savez bien, c'est pas une vie de vivre à Cayenne pour celui qui apportait le petit chapeau. On a toujours la marque là, et il frappa son front. Vous ne la voyez pas, vous, mais là-bas, les négriots eux-mêmes vous appellent popote. Il faut rester entre condamnés ou vivre seul, tout seul, en réprouvé, ainsi que fait Hulmeau. Naturellement, celui qui accepte sa peine parce qu'il est coupable pourrait peut-être s'organiser une demi-existence. Mais ce n'était pas mon cas. Je n'avais rien fait pour aller en Guyane. Vivre de la tolérance des uns et de la pitié des autres. Dites-moi donc l'homme de cœur qui s'en accommoderait. J'ai préféré la liberté à l'assiette de soupe, les savanes du Brésil à ma niche de Cayenne. Je suis descendu de ma soupente et me rappelle fort bien tout ce qui se passa ce jour-là, devant le large. Il était 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'abattait sur les pauvres hommes de là-bas, comme la massue sur la tête du bœuf. Je me plantai devant le port. Il était vaseux comme toujours. Des forçats déchargeaient un chaland. Des douaniers se traînaient aussi lentement que des chenilles. D'autres transportés, torse nus, tatoués, cherchaient quelque besogne qui leur permettrait d'ajouter un hareng à la pitance administrative. Une machine à découper le bois de rose faisait un bruit étourdissant. J'entendais Bibi la Grillade crier à un surveillant. Bon, j'ai volé votre poule, mais comme vous voliez sur nos rations le riz dont vous l'engraissiez, je considère la poule comme la mienne. Je le vis partir avec son ami Biribi, chez Guimaraes Bar Cosmopolite. Je les regardais de la rue. Il pinçait la bonne noire qui les giflait en riant. Des Guyanais allaient, portant le couac et le tafia pour le repas du soir. Des surveillants militaires promenaient un revolver sur leurs panses. Je regardais la mer. À ce moment, le commandant Michel, le gouverneur des îles, il a quitté la pénitentiaire. Il était écœuré. Il est civil maintenant. Passe après de moi. Eh bien, Dieudonné, vous regardez la mer? Oui, commandant. Faites pas de bêtises, hein, ça vaudra mieux pour vous. Il continua son chemin. Je regardais toujours la mer, et derrière le phare de l'enfant perdu, je voyais déjà s'élever la belle. Chapitre 4. Chez le Chinois. Comme c'est curieux, fit Dieudonné, de revivre tout ça maintenant. Nous étions toujours dans ma chambre à Rio de Janeiro. Portes et fenêtres étaient ouvertes pour établir le courant d'air. Vous permettez que je ferme, dit-il. Non, chaud, mais je pourrais parler plus à mon aise. Il revint s'asseoir en face de moi. Le lendemain, à la nuit, si vous aviez été toujours à Cayenne, vous auriez pu voir un forçat se diriger du côté du canal Lossa. C'était moi. Cet endroit n'a pas changé. Il est encore le repère de la capitale du crime. Vous n'y allez jamais. Peut-être la police aurait-elle compris si elle m'avait vu là. Je regardais, personne ne me suivait. Je traversais le pont en bois pourri et j'étais dans l'antre. Je me rendais chez un Chinois. On me l'avait signalé comme un bon intermédiaire. Sa cahute était un bouge. On y jouait, on y fumait, on y aimait. Moi, je venais pour m'évader. Je pousse la porte, aussitôt un chien jappe. Les quinquets à huile s'éteignent, des hommes disparaissent. Une jeune chinoise, ma foi assez jolie, s'avance vers moi. Je dis le mot de passe. Oh, la fille appelle le patron. Les quinquets se rallument, les ombres reviennent, le jeu reprend. Et une espèce de drôle de petit magot apparaît. C'était mon homme. Je viens pour la belle, lui dis-je. Il m'entraîne dans une chambre qui servait à tout. Il y avait un fourneau, une volière, un étau, un lit pour l'amour. La chinoise nous avait suivis. Il ferme la porte soigneusement. Étonné, je regarde la femme, me demandant ce qu'elle vient faire entre nous deux. Le chinois comprend, sourit et pose un doigt sur ses lèvres pour me faire savoir que la fille est discrète. Elle sort et rapporte le thé. Est-il au datura? Qu'est-ce que le datura? Vous savez bien la plante dont on se sert en Guyane pour les vengeances, le mauvais café, quoi. Alors je retourne mes poches et je dis tout de suite, bon, inutile, je n'ai pas d'argent sur moi. Le magot sourit, la jolie petite guenon aussi, et tous les deux ils me disent, Datura, pas pour toi. Le thé est bon. Au reflet du quinquet, la chinoise apparaît coquine. Elle me lance des regards de femelle. Oh, il s'agit bien de cela. Combien, patron, pour aller jusqu'à l'Oyapock?
3 000, plus 200 pour les vivres, plus 100 francs pour moi, 6 passagers au maximum.
Le pêcheur est-il sûr?
On j'en réponds.
Un blanc ou
Un noir. Son nom est Akupa. Si tu acceptes, il sera ici demain à la même heure.
demain. La chinoise veut me retenir. Ma pensée est ailleurs. Je sors, le sentier où je tombe est vaseux. J'avance en écrasant des crapauds buffles, mes compagnons d'évasion. Vous vous souvenez que mon ami marchera? Vous a dit à l'île Royale, l'évasion est une science. Ben, c'est vrai. Ben, c'est une science où le hasard et l'inconnu commandent. Le plus grand des hasards est de réunir les compagnons de la tragique aventure. Au bagne, on ne choisit pas ses amis, on les subit. Impossible de s'évader avec des hommes de son choix. Êtes-vous à Cayenne? Vos camarades sont aux îles, sur le Maroni. Il faut se contenter de ce que l'on trouve, éliminer les gredins, chercher ceux qui ont de l'argent, prendre les marins qui connaissent le chemin du Brésil ou du Venezuela, se méfier des bouchards. Ce ne sont pas les gardiens qui gardent les forçats au bagne, ce sont les forçats qui se gardent mutuellement. Le jour suivant, je constituais ma troupe. À midi, nous étions 6 pour la belle. Le premier, on l'appelait Meneuil, une moustache sans raison, mouche sans raison, lui ayant fait perdre un œil. 56 ans d'âge et 29 de bagne. Condamné à 10 ans, mais 19 de plus au livret pour évasion. C'était un paysan, un laborieux, attaché à sa famille. Solide encore, il avait 700 francs. Le deuxième était Deverer, 25 ans d'âge, à perpétuité, 5 ans accomplis. C'était Meneuil qui l'emmenait. Bon, je ne savais rien de plus sur lui. 500 francs. Le troisième était Venet, 28 ans, perpétuité, 7 ans de bagne. Pauvre Venet. Hein, quel que soit son crime, il l'a épié. Je le revois encore. C'est une vision épouvantable, mais ce n'est pas l'heure encore de vous raconter la chose. Intelligent, poli, bien élevé, instruit, parlant l'allemand. Comptable à l'hôpital. Protégé par le clergé. Manquait d'endurance physique, 1100 francs. Le quatrième était Bruno, 35 ans. Perpétuité, 6 ans de bagne. Préparateur à la pharmacie, boucher de profession, pouvant à la rigueur faire 6 parts égales dans un singe. Bon camarade, 900 francs. Jean-Marie était le cinquième, 26 ans, perpétuité, 8 ans de peine. Il devait sa condamnation à une tragédie bretonne. Sa fiancée s'empoisonne, on l'accuse du crime, il est pour rien. On l'arrête, en prison, son gardien le martyrise. 10 fois par jour, il le frappe de ses clés en lui répétant « Tu l'as empoisonné, ta fiancée, hein ?» Jean-Marie est le plus fort. Au bout de 20 jours, la colère le pousse, il tue le gardien. Et avant de mourir, le gardien lui demande pardon. Quel drame ! Aux îles, j'avais connu Jean-Marie. Je lui avais appris le métier d'ébéniste. Un forçat qui apprend volontairement un métier est un homme qui n'est pas pourri. Travailleur, bonne mœur, ne buvait pas, ne serait jamais évadé sans moi. Ah, le malheureux aussi, 900 francs. Voilà les passagers de mon navire. Dieudonné s'arrêta un moment, fouilla dans ses poches. Oh, vous m'avez encore volé mes allumettes. C'était vrai. Je les lui rendis. Il alluma une jockey club et dit « Continuons. » Le soir, la nuit, je retournais canal Lossa. Je frôlais Ulmo, qui, sortant de son travail, rentrait chez lui, les yeux comme toujours fixés à terre. Quelle expiation! Si ses anciens camarades de la marine pouvaient le voir. Et me voici devant le bouge du Chinois. Je fonce dans la porte comme si j'étais poursuivi. Cette fois, les joueurs n'eurent pas le temps de disparaître, mais ils empoignèrent l'argent qui était sur la table, et l'un, qui n'avait pas de poche, il était nu, mit la monnaie dans sa bouche. Le Chinois me conduisit dans la pièce à tout faire. Un noir, assis sur le lit, fumait la pipe. C'était le sauveur. « Eh bien, me dit-il, la pêche va mal. J'ai une femme et 2 enfants, alors pour remonter mes affaires, je vais entreprendre les évasions. » Et il ajouta, « C'est moi, Akupa. Et comment est-elle, votre pirogue ?» Jamais je n'ai entendu prononcer ce mot de pirogue comme par Dieudonné. Il roule l'eau s'y superposent les accents circonflexes. On dirait, quand il passe à l'embarcation, que la longue houle et le son rauque des mers de Guyane lui sont restés dans la gorge. « Elle est sûre, » répond Akupa. Le noir avait 40 ans. Il était solide. Il pêchait depuis 10 ans sur la côte. À première vue, il ne me paraissait pas être une fripouille. 3 000, plus 200, plus 100, lui dis-je. Il répondit, oh, pas plus. On se toucha la main. C'était conclu. Je sortis avec lui. Quel jour? Me demanda-t-il. Ben, après-demain, le 6. Le rendez-vous? C'est 1 heure du soir, à la pointe de la crique, fouillée. Pas entendu.